Bonjour. Je remercie le Collège de France et Monsieur le professeur Shedd qui m'a invité. Je suis très honorée d'être ici où Michel Foucault a enseigné. Au cours des trois dernières semaines, mes communications ont porté sur Michel Foucault et la peinture, sujet de mon livre à paraître prochainement. Je n'ai ici abordé qu'une petite partie de ma recherche. J'ai choisi les parties de mon livre me permettant d'évoquer les aspects les plus théoriques de la réflexion de Foucault sur la peinture et en particulier celle qui m'ont permis de situer Foucault dans l'historiographie française et anglo-américaine de l'histoire de l'art. Au regard de leurs différences et intérêts respectifs. Cette enquête m'a amené à évoquer en détail la signification théorique du premier chapitre de « Les mots et les choses » dans la mesure où il annonce ses écrits à venir sur la peinture. Mon intention était par là d'établir la pensée de Foucault dans le champ de l'esthétique et en particulier ses liens avec les travaux de Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze et Hubert Damisch. Auteur de la peinture. Comme je l'ai indiqué dans ma première conférence, Foucault a consacré un certain nombre d'écrits suivant l'ordre chronologique à Velázquez, Manet, Magritte et Gérard Fromanger, les quatre là. Je n'ai pas eu le temps dans ces conférences au Collège de France d'examiner les importants écrits du philosophe sur Manet et Magritte. Néanmoins, je parlerai aujourd'hui de son contemporain Fromanger et la peinture à la lumière de la photographie. Dans un entretien avec Paul Rabineau, en 1986, Deleuze a eu ces mots. Foucault disait que ce n'était pas de la répression, mais pire. Quelqu'un parle, mais c'est comme il ne disait rien. J'avais parlé déjà du silence de la peinture qui adhère toujours sur le concept. La peinture photogénique, titre du texte rédigé par Foucault à l'occasion de l'exposition individuelle de Gérard Fromanger, qui s'appelait « Le désir est partout » à la galerie Jean Boucher en 1975, joue avec l'expression « photogenic drawing », « dessin photogénique ». Forgé par William Fox Talbot pour rendre compte de ses impressions sur papier enduit de nitrate d'argent à la fin des années 1830. L'une des premières images de Talbot n'était guère plus que la trace d'un motif ou d'un objet. Des objets sur papier presque dénués de la tridimensionnalité à la base de l'illusion spatiale de la photographie en tant que telle. Le résultant est une silhouette plane dans laquelle le contour renvoie à l'original. Fromanger, pour sa part, projette sur ces toiles blanches des diapositives d'événements courants ou, pour reprendre les termes de Foucault, des photos dans la rue, photos de hasard, effectuées un peu à l'aveugle. Le résultat final, selon Foucault, n'avait rien de réaliste ou de représentationnel, mais plus à d'ailleurs que les projections photographiques qu'il avait engendrées, et pas plus que les dessins photogéniques de Fox Talbot ne ressemblaient à leur objet. Parlant au nom de Fromager, Foucault écrivait « Pour lui, le moment le plus intense et le plus inquiétant, c'est celui où, le travail terminé, il a éteint la lampe, fait disparaître la photo qu'il vient de peindre et laisse sa toile exister toute seule. » Jouer avec les mots est typique du mode argumentaire foucauldien et, comme nous l'avons vu précédemment, particulièrement adapté aux opérations de la peinture dans la rhétorique du philosophe. Dans son texte sur les peintures de Fromager, Foucault utilisait l'expression « peinture photogénique » afin d'indiquer le double sens dans lequel entendre « photographie ». Le terme ne décrivait pas seulement la méthode de composition propre à Fromager et plaçait le lecteur dans l'histoire du médium auquel les tableaux de Fromager renvoient et qu'il transforme, à savoir la photographie. Il n'y avait rien de nouveau à utiliser la photographie comme modèle ou comme image préparatoire. Ce qui l'était, selon Foucault, c'était le procédé employé par l'artiste, consistant à utiliser l'image projetée sur la toile écran, et même temps que son retrait laissant la peinture exister seule, supérieure à la photographie. Pour Foucault, ce procédé soulevait la question théorique centrale de son enquête présente, à savoir si une photographie est au niveau le plus élémentaire, une image, une ressemblance, une facsimilé obtenu par la photographie, alors qu'est-ce que c'est qu'une peinture obtenue par la photographie? Quelle est l'interdépendance entre photographie et peinture en 1975 au début de l'ère de l'image? L'innovation picturale de Fromager rappelait les silhouettes des techniques proto-photographiques à d'autres critiques de l'époque. Ainsi, Félix Guattari observait-il dans un texte postérieur également consacré à Fromager, combien la silhouette humaine, si souvent rencontrée dans les œuvres des années 70, fonctionnait comme élément de composition essentiel. Les silhouettes jouent un rôle significatif dans l'instabilité entre figure et fond et entre contenu et expression, que Guattari considérait comme leur aspect le plus original. Une instabilité que Foucault avait déjà remarquée. Il écrivait « Les tableaux de Fromager ne captent pas d'image, ils ne les fixent pas, ils les font passer ». Cette instabilité constatée par les deux philosophes était présente dans l'espace de représentation entre la projection et le tableau achevé, ainsi que dans l'espace historique entre la situation du photographe et l'actualité du tableau. En 2005, lors de la rétrospective autour de Fromanger, Bernard Cesson décrivait en ces termes les effets des tableaux silhouettes. Il peint directement sur l'image projetée et entoure parfois un groupe ou une silhouette d'une ligne épaisse, plus colorée la zone ainsi délimitée. En d'autres termes, il peint l'ombre de la réalité enregistrée. Dessins et peintures sont donc renvoyés à leurs origines, il continue, à la fable de Pline l'Ancien, au sujet de la fille du potier corinthienne Boutades, qui avait tracé le contour de l'ombre portée de son amant afin de pouvoir se souvenir de lui une fois qu'il serait parti. Toutefois, selon Foucault, les peintures de Fromanger ne se référaient pas directement à la peinture elle-même ni à ses origines mythiques. Il n'existait pas de moment originaire lors duquel la réalité proposée par la technique photographique de la projection pouvait être obtenue en un sens pur ou inhistorique. C'est cette affirmation de l'histoire qui structure le point de vue de Foucault tout au long de son texte sur Fromanger et qui lui permet de se joindre à l'histoire de la peinture et à l'histoire de la photographie par une affirmation critique révolutionnaire concernant l'importance de l'artiste pour l'histoire de l'art. Cette position faisait partie des aspirations de Fromanger et d'autres artistes appartenant à la figuration narrative. Lors d'une de leurs expositions de groupe intitulée « Guillotine et peinture » en 1977, le critique d'art et commissaire Alain Jouffroy évoquait une nouvelle peinture d'histoire. Il déclarait « La nouvelle peinture d'histoire dont je parle a ceci de complètement différent de celle de David et de Topino, qu'elle ne confond plus l'histoire avec la mise en scène d'une tragédie, mais elle n'élimine pas l'histoire pour autant. Elle ne la gomme pas au nom de je ne sais quelle résurgence nostalgique de l'art pour l'art et de l'esthétisme. Elle nous montre que l'histoire se fait partout, comme l'amour, avec violence, mais aussi avec désespoir, et pourquoi pas en riant. Fromanger participait avec 5 toiles à cette exposition de groupe. 3 d'entre elles, de 2 mètres sur 3, faisaient appel à la technique de la silhouette évoquée par Foucault. De plus, l'une de ces toiles avait pour thème explicite la question des prisons, à laquelle Foucault et Fromanger s'étaient intéressés de près dans la première moitié de la décennie. En 1973, Foucault avait rédigé la préface d'un livre de Serge Livrauset, membre du comité d'action des prisonniers. La préface de Foucault à ce récit de la vie d'un détenu attesté de l'originalité complète de la forme de discours qui s'y trouvait. Ni roman noir, ni autobiographie psychologisante, séparant l'auteur de la société normative de son temps. L'intérêt de Foucault se portait sur ce qu'il appelait l'espace blanc, du discours interdit sur la prison et sur lequel Livrauset avait projeté une forme nouvelle avec son livre. On pourrait ici se livrer à une analogie avec l'importance que Foucault conférait à la même époque à la projection d'images photographiques par Fromanger qui résultait en peinture montrant ce qui n'avait encore jamais été vu en images. La série de tableaux intitulée « La vie d'artiste » de la même manière que le livre de Livrauset insère littéralement la biographie de l'artiste en tant que militant de la cause des prisonniers dans la représentation peinte de son procédé technique. L'artiste se représente dans son atelier, tandis qu'en face de lui, l'écran toile montre le tableau. Dans un tableau de la révolte de la prison de Nancy, à l'évidence réalisée d'après une photographie contemporaine, des silhouettes de prisonniers sur les toits constituant une citation visuelle des tableaux intérieurs de la prison de Toul. Au sujet de ces dernières, Foucault avait écrit « Des détenus révoltés sur un toit. Une photo de presse partout reproduite. Mais qui donc avoue ce qui s'y passe? Quel commentaire a jamais délivré l'événement unique et multiple qui circule en elle? » L'espace blanc du discours sur les prisons avait été comblé par les images des peintures de Fromanger. Dans les silhouettes produites par l'artiste entre 1969 et 1971, qu'on trouve dans les séries Boulevard des Italiens, où le peintre est le modèle, les ombres noires ou rouges portée sur la toile par sa propre silhouette ou celle de passant étaient les résidus du processus de projection. Ces silhouettes noires ou rouges faisaient référence au portrait classique de profil du 18e siècle ainsi qu'à la proto-photographie. Foucault notait que Fromanger manipulait délibérément l'image photographique projetée sur la toile en peignant à la prime, terme désignant la technique de la Renaissance consistant à peindre directement sur la toile sans ébauche ou marque préparatoire. Je le cite, « Fromanger, lui, élide le relais du dessin. Il applique directement la peinture sur l'écran de projection, sans donner à la couleur d'autre appui qu'une ombre. Ce fragile dessin, son tracé, tout près de s'épanouir. Toujours dans ce même texte de catalogue, Foucault observait la disposition de l'ombre dans les tableaux postérieurs. Selon lui, la disparition des ombres, quote, est intégrée en quelque sorte à la technique du peintre. Mais une fois le projecteur de diapositive éteint, le tableau perdait son substrat photographique. C'était le cas de la série de 8 peintures de dimensions identiques représentant une silhouette de 3/4 d'un balayeur africain. Fromanger y faisait appel à des losanges de couleur ou à des champs colorés pour accroître la sensation de répétition de la composition photographique d'origine, rendue singulière par la variation dans l'application de la peinture. De plus, les titres des tableaux de la série, chacun portant le nom d'une rue et d'une atmosphère différente à partir du pays d'origine du travailleur. Rue du dessert, rue de la savane, rue de la saison des pluies, etc. Attirant alors l'attention sur les particularités culturelles du travailleur, introuvables dans la projection de diapositives correspondantes et même déniées par elle à cause de sa reproductibilité. Foucault considérait cette absence des effets de la projection comme un tournant conceptuel significatif pour la théorie de l'image, du fait que la présence visible de la photo ne fait plus partie de la représentation. Il en résulte une perceptible accélération de l'histoire. La peinture comme fronde à image, écrivait Foucault. Pour le philosophe et pour l'artiste, ce rapide mouvement vers l'avant n'était autre que celui de la révolution. Pardonnez, prendre un peu de l'eau. En produisant une analogie entre la peinture et un procédé proto-photographique, comme il le fait dans ce texte, Foucault insérait le peintre contemporain dans l'historiographie de la photographie, de la même manière que Fromanger dans son autoportrait « La vie d'artiste ». Foucault connaissait certainement l'article de Hubert d'Amiche de 1963, « 5 notes pour une phénoménologie de la photographie », dans lequel l'historien de l'art avait alerté sur le fait que les dessins photogéniques et d'autres impressions du même genre avait pour effet de pousser dangereusement à une théorisation faisant appel à la méthode phénoménologique concernant la nature essentielle de l'image en tant qu'image. D'Amiche soutenait que toute image photographique a une histoire, ce qui signifiait qu'une photographie, y compris une proto-photographie, ne pouvait être comprise uniquement en termes phénoménologiques, quelle que soit l'attraction qu'une telle image nue exerce pour être interprétée en ces termes. D'Amiche écrivait, « La situation photographique ne peut pas être définie a priori, la division en composants fondamentaux à partir de ses seuls aspects contingents ne peut être entreprise dans l'absolu. » La proposition de D'Amiche concernant l'image photographique en tant que socialement ou culturellement déterminée rappelle les mots célèbres de l'historien de l'art Heinrich Wölfflin, qui déclarait dans son livre sur les principes de cette discipline que la vision avait une histoire et que la révélation de la strate visuelle qui constitue cette histoire était la tâche première de l'histoire de l'art. Et en effet, dans les tableaux de Fromanger, le substrat, comme l'appelait Foucault, a joué un rôle important pour le philosophe. Il annonçait la situation de la peinture contemporaine prise entre la photographie et le référent social. Foucault écrivait « Dans le mouvement par lequel le peintre ôte à son tableau son support photographié, l'événement lui file entre les mains, fuse en gerbe, acquiert sa vitesse infinie, joint instantanément et multiplie les points et les temps, suscite un peuple de gestes et de regards, trace entre eux mille chemins possibles. Une peinture, il continue, peuplée de mille extérieurs présents et futurs. En retirant ce que D'Amiche avait qualifié de composant fondamental, Fromanger révélait les histoires contingentes de l'image de ce composant fondamental dans le tableau. La mise en garde de D'Amiche contre l'idée absolue de l'image qu'avait provoqué la proto-photographie, trouvait pour Foucault un écho dans les tentatives contemporaines du minimalisme et du color field. Foucault dénigrait ce type de peinture, cherchant à se purifier et à s'exaspérer comme art, pour reprendre ces termes. De même que Jouffroy autorisait le rire dans la nouvelle peinture d'histoire, Foucault affirmait le droit pour la peinture photogénique de se moquer enfin de cette part d'elle-même qui recherchait le geste intransitif, le signe pour la trace. En retournant la photographie contre elle-même, Fromanger avait mis en place la relation ironique du peintre contemporain avec la photographie et tant que un processus qui s'achèvera par le triomphe inattendu de la peinture sur la photographie à l'ère de l'image. Tout au long de son texte sur Fromanger, Foucault situait la peinture contemporaine dans le contexte de l'histoire de la photographie. pas seulement dans le but d'expliquer, pas dans le but d'expliciter l'originalité du processus, mais aussi pour expliquer le rôle joué par la peinture dans le discours contemporain sur l'image. C'était comme si, au milieu des années 70, la photographie avait eu besoin de la peinture pour révéler ce qu'était l'image. Voici comment Foucault décrit le bout de la méthode de Fromanger. Créer un événement tableau sur l'événement photo. Susciter un événement qui transmette et magnifie l'autre, qui se combine avec lui et donne lui pour tous ceux qui viendront le regarder et pour chaque regard singulier posé sur lui à une série illimitée de passages nouveaux. Créé par le court circuit photocolore, non pas l'identité truquée de l'ancienne photopeinture, mais un foyer pour des myriades d'images en jaillissement. J'ai déjà évoqué l'importance qu'avait eue la réflexion de Damisch à propos de la phénoménologie de la photographie pour la réflexion de Foucault au sujet de la peinture utilisant la photographie. De façon plus explicite, le texte de Foucault sur Fromanger s'ouvre sur une brève histoire de la photographie, dans laquelle les références de Foucault révèlent l'importance du célèbre livre de Gisèle Freund, Photographie et société, publié en 1974, un an avant le texte de Foucault sur Fromanger. Une partie de la pensée de Foucault sur la signification de la photographie pour la peinture contemporaine s'appuie à la fois sur la méthode et sur la structure employée par Freund. À l'époque où Foucault écrit sur le sujet, il était rare que la photographie soit considérée comme un médium social, particulièrement en France. La conception de Freund révélait de l'optique matérialiste culturelle de l'école de Francfort, pour laquelle, je la cite, chaque société produit des formes définies d'expression artistique qui, dans une grande mesure, sont nées de ses exigences et de ses traditions qu'elles reflètent à leur tour. Jugement qui n'est pas éloigné de celui de Foucault sur Fromanger et selon lequel les tableaux donnés au reportage photographique sa forme sociale. Par contraste, l'approche de Pierre Bourdieu dans Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, avait pour but d'attendre les conditions psychologiques surjacentes permettant de comprendre ce qu'il appelait l'inconscient photographique. Cette approche négligeait délibérément la démarche dialectique rencontrée dans l'œuvre de Freund. Depuis sa thèse en sociologie de l'art, soutenue à la Sorbonne, en 1936. La démarche dialectique de la vision photographique de Freund est symbolisée ici avec l'œil divisé par le fond blanc de la couverture du livre. En termes de structure, Freud progressait chronologiquement et fondait son enquête sur la photographie française du 19e siècle. Au début du photographie et société, elle déclare que la photographie a été inventée afin de rendre l'art, et en particulier le portrait, accessible à tous. La technique des ombres portées de la peinture photogénique occupe une place importante pour Freud, car son livre s'ouvre sur une discussion à propos de silhouettes découpées en vogue en France au XVIIIe siècle. Freud évoque une fantaisie imaginée par on ne sait qui et qui n'était que l'image d'une ombre. On a dit et l'on a continué à dire « c'est une silhouette ». Puis, elle poursuit sur les ouvertures démocratiques offertes par la photographie à la société française des années 1820 et 1830, avant de l'envisager comme, je cite, une industrie toute puissante et tentaculaire qui s'est infiltrée partout. Foucault, dans la brève histoire de la photographie qui inaugure son texte sur Fromanger, reprend les idées de Freud. Dans le même temps, il décrit l'étroitesse de vue des peintres du 19e siècle, tels Ingres, qui n'ont pas saisi la libération que la photographie procurait à leur médium. À l'évidence, pour Foucault, les usages de la photographie par Fromanger réalisaient la promesse faite par la photographie à sa naissance. Selon Foucault, si l'une, c'est-à-dire la peinture, suivait l'autre, c'est-à-dire la photographie, si on les combinait, les alternait, les superposait, les entrecroisait, tous ces mots sont de Foucault, alors l'effacement et l'exaltation de l'une par l'autre conduiraient à un véritable triomphe de l'art pour l'histoire. Il écrivait, « Comment retrouver cette folie, cette insolente liberté qui furent contemporaines de la naissance de la photographie ? Les images alors couraient le monde sous des identités fallacieuses. Rien ne leur répugnait plus que de demeurer captives, identiques à soi, dans un tableau, une photographie, une gravure, sous le signe d'un auteur. Nul support, nul langage, nulle syntaxe stable ne pouvait les retenir. De leur naissance ou de leur dernière halte, elles savaient toujours s'évader par de nouvelles techniques de transposition. De ces migrations et de ces retours, nul ne prenait ombrage, sauf peut-être quelques peintres jaloux, quelques critiques amères. La référence à la paternité de l'œuvre rappelle le texte « Qu'est-ce que c'est qu'un auteur ?» et indique combien la liberté de l'image photographique développé par Fromanger dans ses tableaux, requiert l'abolition de la conception traditionnelle de l'artiste singulier ou absolu. L'exploration par Foucault de l'importance de la peinture en relation avec l'histoire de la photographie constituait une réfutation d'un point essentiel de la critique américaine préoccupée par la soi-disant mort de l'art, la fin de la peinture et la montée en puissance de l'image. Vue de Paris entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80, cette critique s'était largement répandue en vantant les vertus du pop art, des pratiques de l'art conceptuel et de l'usage que les peintres hyperréalistes faisaient de la photographie. De façon très contrastée, il ne serait pas exagéré de considérer qu'assez généralement, dans le milieu de l'art français des mêmes années, la culture de l'image, en position de plus en plus dominante, était regardée avec suspicion. Et, corollairement, l'art était considéré comme l'instrument essentiel fournissant à la société la critique de cette culture de l'image. Témoin, ce texte de 1965, signé par les peintres Elode, Arroyo et Ray Calcati, aussi l'art n'est-il pas lui-même le pouvoir saveur que nous appelons avec tant d'urgence et d'une voix si faible? Sa capacité d'intervention dans l'histoire est limitée au pouvoir de donner des indications. Mais c'est en cela qu'il n'est pas absolument mort, qu'il n'est pas un secteur parmi d'autres de la production culturelle. Il y a de bonnes raisons historiographiques à la relative ignorance dont a fait preuve l'histoire de l'art anglo-américaine à l'égard des vues foucauldiennes sur la peinture contemporaine et les pratiques photographiques. Foucault avait écrit en français sur un artiste français et la traduction de son texte n'est parue en anglais que plus de 20 ans après sa rédaction. Et bien longtemps après la disparition de la figuration narrative. En France, d'un autre côté, le texte appartenait à une époque où le jugement critique sur la figuration narrative et ses objectifs était bien établi, situation qui n'a jamais fondamentalement varié. Par contraste, les débats sur le statut et la fin de la peinture au cours de cette année qui ont eu lieu dans les centres d'art anglophones de New York et à un moindre degré à Londres ont négligé nombre des critiques et artistes de la figuration narrative. Foucault, comme beaucoup des membres de ce mouvement, connaissait Warhol, mais selon leur appréciation postérieure, les faits Warhol, comme on l'appelait, ne méritaient aucune admiration. Dans le catalogue de la Grande Exposition dédiée à la figuration narrative à la Galerie Cruz, 965, le critique Gérald Gassiot-Talabot expliquait « L'immuable Merlin de Warhol se répète indéfiniment comme dans un jeu de miroir. L'icône a dévoré et immobilisé l'espace. » Les sérigraphes de célébrités de Warhol s'opposaient directement au jugement de Foucault sur les réalisations de Fromanger. Comme lorsqu'il écrivait « La peinture comme fronde à image, fronde qui devient avec le temps de plus en plus rapide. » Dans la série monumentale de 8 tableaux, « Vivre et laisser mourir » ou « La fin tragique » de Marcel Duchamp, qui faisait appel à des techniques et à une iconographie picturale pour commémorer l'artiste, des membres influents de la figuration narrative soulignaient l'importance de la mort de l'art qui, pour eux, avait commencé au début du XXe siècle avec le « ready-made » de Duchamp. Il déclarait « Assassiner un veillard est une chose laide et qu'on n'accomplit pas en dépit des apparences d'un cœur léger. Mais la misère interdit tout luxe. Et Marcel Duchamp incarne aujourd'hui d'une manière indue et non par hasard ce dont précisément l'humanité est le plus dépourvu. L'esprit d'aventure, la liberté d'invention, le sens de l'anticipation, le pouvoir de dépasser que nous avons eu envie d'intervenir. Ces artistes ne se contentaient pas de célébrer les vertus d'une peinture à l'huile, figuratif et narratif. Ils insistaient également sur la nécessité politique d'un engagement de groupe et militant qui faisait défaut à Duchamp et à ses disciples, je veux dire les disciples de conceptual art. La peinture, d'un autre côté, avait une leçon d'histoire de l'art à produire. Comme Fromanger devait l'admettre plus tard, les peintres de la figuration narrative pouvaient être perçus comme les héritiers du virage conceptuel associé depuis bien longtemps à Dada et au ready-made par les critiques et les historiens de l'art. Au cours d'une rétrospective présentée en 2007, Alain Jouffroy, le principal soutien de la figuration narrative à ses débuts, parlait de transition entre une époque et une autre. Il entendait par là que ce mouvement sur le mode narratif et figuratif faisait le pont entre l'époque antérieure, marquée par l'abstraction, et l'époque à venir de l'image à diffusion de masse. Concernant la pauvreté de l'abstraction, Jouffroy déclarait « Le dogme de tous les artistes et défenseurs de l'art abstrait, triomphant et omnipotent, était en effet alors de dire « C'est fini, la figuration est morte. » C'était en contradiction avec ce que je pouvais percevoir. Foucault a repris le refrain de la revigoration de la peinture après l'abstraction, lancée au cours des années 60 par l'artiste et critique. Comme eux, Foucault questionnait le pop et le minimalisme, mais il rapprochait artiste pop et image peinte hyperréaliste par l'usage des techniques photographiques. En même temps, Foucault reconnaissait la différence d'usage de la diapositive par Fromanger, qui ne reposait pas sur le modèle photographique intérieur. Il soutenait, je cite, que les gens du pop et de l'hyperréalisme ne vont pas chercher derrière l'image ce qu'elle représente, car ce qu'ils ont produit au terme de leur travail, ce n'est pas un tableau construit à partir d'une photographie maquillée en tableau, mais une image saisie dans la trajectoire qui mène de la photographie au tableau. Le rejet par Foucault de certaines pratiques photographiques seulement lui permettait de maintenir la nécessité de comprendre l'histoire et la signification de la photographie pour la peinture, médium préféré par Fromanger. Fromanger avait entamé son dialogue avec la peinture narrative et la photographie en 971, année de sa collaboration avec Foucault, au sein du groupe d'information sur les prisons, par la série intitulée Boulevard des Italiens, exposée à la Galerie de l'Arc à Paris. Foucault devait connaître ses tableaux. Lorsque 4 ans plus tard, il compare l'usage particulier que Fromanger fait de la photographie par rapport à d'autres peintres, il évoque des artistes américains et anglais. Richard Estes, Robert Cottingham, John Salt et Ralph Goings. Selon Foucault, ces artistes copiaient servilement la photographie plutôt qu'ils ne l'utilisaient avec la liberté et originalité d'un Fromanger. En nommant des peintres anglo-saxons, Foucault entend différencier l'usage de l'image photographique par Fromanger de celui plus superficiel selon les effets du réalisme absolu en matière de composition. Pour Foucault, Fromanger va plus loin en ne produisant pas seulement un événement qui a lieu, apparemment réel, mais plutôt un événement. Je cite, « Un événement qui continue sans cesse d'avoir lieu sur l'image, du fait même de l'image. » On pourrait considérer l'approche de Foucault des usages de la photographie par Fromanger comme une résistance à l'analogie avec la critique d'art américaine, au moment même où il faisait la connaissance in situ de la culture américaine. De fait, le point de vue de Foucault et de Fromanger concernant la primauté de la peinture à l'ère de l'image n'était pas appelé à devenir dominant dans un proche avenir. On pourrait donc qualifier de perverse le soutien apporté par Foucault à la peinture contre la photographie, non seulement parce qu'il s'opposait à la majorité de la critique américaine, mais encore parce qu'il envisageait la peinture et la photographie à la lumière d'un topos théorique de l'art classique, appartenant à un passé distant et moderne. Le débat sur les mérites respectifs de la peinture et de la sculpture remonte à la Renaissance. La peinture l'a le plus souvent importé sur la sculpture, de même que chez Foucault, la peinture l'a importé face à la photographie. Le texte du philosophe sur Fromanger s'ouvre sur une citation d'Ingres. Le peintre qui considérait la photographie essentiellement comme une technique manuelle, inacceptable dans une esthétique de beau. Il avait écrit « C'est très beau la photographie, mais il ne faut pas le dire ». Selon Foucault, s'exprimer à une période, je cite, « frénésie des images » au cours de laquelle peintres et photographes mêlaient leurs techniques et méthodes sans rivalité. Foucault parle d'une liberté insolente qui a accompagné la naissance de la photographie, d'un âge d'or qui connut sa fin autour de 1900 avec la professionnalisation du photographe et la commercialisation de la photographie. En réaction, poursuivait Foucault, la peinture, de son côté, a entrepris de détruire l'image, non sans dire qu'elle s'en affranchissait. Foucault entendait par là que l'abstraction l'avait emporté en peinture en prenant ses distances vis-à-vis de la ressemblance et du symbolique. Dans le même temps, l'histoire de la peinture et de la photographie se séparait et le pouvoir de l'image se répandait sans être accompagné de plaisir ni de critique. Foucault soutenait que l'ampleur de la contribution de Fromanger à la peinture résidait dans sa capacité à ramener l'image dans le tableau à un état de signification en relation à l'image photographique et, ce faisant, à montrer le pouvoir persistant de la peinture de manifester. Comment réapprendre, demandait Foucault, non pas simplement à déchiffrer ou à détourner les images qu'on nous impose, mais à en fabriquer de toutes sortes. Foucault maintenait sa foi en la peinture en tant que forme privilégiée de la signification. Et c'est ainsi qu'il comprenait les tableaux de l'exposition intitulée « Le désir est partout ». Dans mon livre « Apparaître », je défends l'idée que ce point de vue est celui de Foucault depuis les mots et les choses. En faisant appel à des projections, Fromanger a dans le tableau intitulé « En Chine » transcrit les photos journalistiques d'une Chine inconnue et jusqu'à là non représentée. 975 est l'année du voyage en Chine de l'artiste en compagnie du documentariste Joris Ivens. Le texte de Foucault se conclut sur les tableaux de cette récente visite en Chine afin de les introduire dans une histoire de l'art ouverte à la révolution et à la transformation. Les événements contemporains majeurs du moment projetés sur l'écran étaient agrandis à l'échelle de l'histoire et décrits en peinture. J'ai fini. Pour Foucault, le succès des images dépendait de cet alignement du contenu politique et de la forme artistique, ainsi que de l'invisibilité du procédé de projection photographique le rendant possible. Dans les tableaux de Fromanger, le substrat photographique nous permet de voir la peinture à l'ère de l'image comme le véritable détournement culturel. La peinture s'éloigne d'une esthétique photographique usée pour devenir compréhension de l'image dans son existence historique la plus pleine possible. Merci.